Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique » de la Discool Paris de l'École des Ponts Paris Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking.
Pour notre quatrième saison, nous aborderons des thématiques autour des expertises en innovation et design explorées par la Discool Paris. Nous vous proposons donc de nouveaux intervenants autour d'univers différents comme le design thinking, le design fiction et le design soutenable. Et qui, j'espère, vous inspireront autant que nous. Bonne écoute!
Bonjour à tous, je suis Colline Nelson de l'équipe de la Discool Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Quentin Wery, responsable de la Fabrique à Projet. La Fabrique à Projet est un laboratoire d'innovation publique au sein du secrétariat général du pôle ministériel de la transition écologique et de la cohésion des territoires, transition énergétique, maire. Laboratoire qui a pour mission de diffuser les différentes méthodes autour du design et de l'intelligence collective. Bonjour Quentin.
Bonjour Colline.
Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience ?
Eh ben, bonjour, enchanté. Je m'appelle Quentin Wery. Je suis responsable de la Fabrique à Projets, en poste depuis un an et demi. Je suis ingénieur de formation et designer de services. J'ai une carrière principalement dans des agences de conseil ou de design. Et j'accompagne des organisations ou des services sur des questions d'organisation ou de transformation.
Super, merci. Alors, pour cet épisode, il y a différentes choses que je voudrais aborder, notamment l'évolution de ta carrière dans les transformations. Mais pour commencer, j'aimerais découvrir un peu plus avec toi comment et pourquoi un laboratoire d'innovation publique, comme la Fabrique à Projets, s'approprie ces méthodes orientées design et intelligence collective. Pourrais-tu donc nous parler un peu plus de la Fabrique à Projets, d'où est née l'initiative et où en êtes-vous aujourd'hui ?
Alors, la Fabrique à Projets, c'est effectivement un laboratoire d'innovation publique qui a vocation à accompagner l'évolution de la conduite des politiques publiques au sein de notre pôle ministériel. La Fabrique à Projets a vu le jour en 2018, donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant, dans le cadre d'un programme qui s'appelait Culture Transition, porté par le secrétaire général de l'époque, et qui avait pour but de développer une culture professionnelle commune autour de la transition ou des transitions au sein du pôle ministériel. Et c'est sur le modèle de la fabrique numérique, qui était un laboratoire, une fabrique qui existait déjà, que la Fabrique à Projets s'est créée à l'époque. Et l'ambition de départ de ce lab était de faire bouger les lignes au sein des directions du ministère pour créer plus de transversalité, pour tester des outils et des méthodes autour du design et de l'intelligence collective, et pour développer l'esprit d'initiative ou encore encourager des transformations managériales.
Super. Donc on est vraiment dans la recherche d'une culture professionnelle commune basée sur ces outils. En parlant de ça, quels outils vous utilisez principalement au sein du lab et les types de projets que vous allez accompagner ? Quelle forme prend votre intervention ?
Alors, depuis bientôt 6 ans maintenant, la Fabrique à Projets a accompagné environ 80 projets autour de 3 grands axes. Améliorer des politiques publiques d'abord, faire évoluer des modes de fonctionnement au sein des services du pôle ministériel et enfin développer des outils et des services pour les agents du ministère. Donc dans ces 80 projets et depuis ces 6 ans d'expérience, nous avons principalement mis en œuvre des outils et des techniques qui s'inspirent du design ou du design thinking et de l'intelligence collective. Les projets qu'on a pu conduire répondaient principalement à des commandes soit d'agents, de chefs de projet du pôle ministériel en administration centrale, dans ce qu'on appelle des services déconcentrés ou chez des opérateurs du pôle ministériel. Nos projets durent en moyenne 6 à 9 mois et on va alterner dans ces projets des phases d'écoute et de diagnostic qu'on va traiter un petit peu en chambre et des phases plutôt d'intelligence collective où on va mobiliser des usagers, des parties prenantes sur les sujets qu'on travaille, pour produire in fine des livrables qui vont être utiles aux services, aux chefs de projet dans l'atteinte de leurs objectifs. En parallèle de ces projets, depuis quelques années, on a également développé des formats d'acculturation, de montée en compétences pour continuer notre action qui était de diffuser des nouvelles approches collaboratives.
Très bien. Et donc après 5 ans d'activité, quel est le constat ?
Alors, après 5 ans d'activité de notre laboratoire d'innovation publique, on peut dresser plusieurs types de constats, soit endogènes, soit exogènes, hein, à notre service ou à notre équipe. Le premier, qui est plutôt un constat endogène, hein, est que la preuve de l'intérêt de ces méthodes de travail, de ces nouvelles méthodes de travail, elle est faite. Utiliser des approches sensibles, centrées sur les utilisateurs, utiliser l'intelligence collective, ça répond bien aux enjeux du pôle ministériel pour traiter des sujets complexes, des sujets qui sont souvent multipartis, sur des problèmes qui sont équivoques, c'est-à-dire qui n'ont pas une seule solution possible, simple et évidente, avec une démonstration et une méthode unique. Donc ça, c'est un peu le premier constat. Le deuxième constat, qui est plutôt exogène, est que les approches centrées usagers, l'intelligence collective, c'est un sujet qui s'est largement diffusé dans la culture de travail des agents, sans attendre notre action d'ailleurs. On le voit notamment avec des demandes d'appui qui ne font qu'augmenter de la part de tous les services, y compris des services qu'on n'est pas allé chercher directement, qu'on ne connaissait pas spécialement. On le voit également à l'utilisation croissante de l'espace 34, qui est l'espace de créativité qu'on met à disposition, sur lequel on a de plus en plus de demandes. Et le troisième constat que je pourrais faire, qui est également un constat exogène, hein, c'est que y a beaucoup d'autres structures d'innovation qui utilisent un petit peu les mêmes approches que nous, qui se sont développées dans d'autres directions ou d'autres services du pôle ministériel. Hein. On a vu naître depuis 5 ans d'autres laboratoires d'innovation publique, des accélérateurs, des incubateurs, des initiatives visant à monter des expérimentations, à travailler plus en lien avec les territoires. Donc tout ça, ce sont des constats qu'on peut faire aujourd'hui en prenant un peu de recul.
Donc, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que des méthodes qui touchent à la sensibilité, à la créativité, qui ont eu du mal à se répandre dans les entreprises comme le design thinking, est aujourd'hui légitimée et crédible aux yeux de cette structure ?
Alors, ouais, effectivement, donc, du coup, ces trois constats que je viens d'énoncer nous amènent à valider que l'intelligence collective, le design, c'est des approches qui sont tout à fait pertinentes pour les sujets que doit traiter notre pôle ministériel, pour le champ des politiques publiques sur lesquelles on travaille. En ce qui concerne la fabrique à projet, du coup, nous, ça implique peut-être de revoir et d'adapter nos objectifs, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus à devoir faire la preuve de l'intérêt de nos méthodologies, mais plutôt à nous mettre en capacité de mieux répondre à ces demandes croissantes, ou à répondre à des demandes d'agents qui ont déjà un premier niveau de maîtrise et d'acculturation sur ces approches. En résumé, nous, on doit plus systématiquement se mettre en position, ce qu'on a beaucoup fait ces dernières années, hein, se mettre en position de faire pour le compte d'eux ou de faire avec nos demandeurs, mais beaucoup plus d'être en posture de donner des outils et des moyens à des acteurs, à des agents, pour qu'eux puissent faire par eux-mêmes. Eux puissent conduire eux-mêmes leurs propres projets et mobiliser des techniques et des outils d'intelligence collective ou du design. Ça va impliquer un développement de notre offre de service, hein, une évolution de notre offre de service, et c'est ce que moi je porte aujourd'hui comme évolution stratégique pour mon laboratoire. Et ça passe par trois axes. Le premier, on a un enjeu d'industrialiser nos accompagnements pour délivrer un plus haut niveau de qualité avec moins d'investissement, hein, autrement dit... Nous, on n'a pas des ressources, enfin, on n'augmente pas nos ressources, donc c'est-à-dire qu'on doit être capable d'accompagner de façon plus efficace des choses sur lesquelles on sait déjà bien faire. Le deuxième axe, c'est on doit développer des formats de montée en compétences et d'outillage pour mettre en capacité les agents de faire par eux-mêmes. Et le troisième axe, on doit aussi développer l'animation de réseaux d'innovateurs pour mieux guider les agents dans un ensemble de ressources et d'expertises qui existent au sein du pôle ministériel. Comme on n'est plus les seuls à maîtriser ces techniques, on doit aider les agents à s'orienter vers les bonnes ressources et les bonnes personnes. Voilà.
Donc des résultats plutôt prometteurs pour 5 ans d'existence, vu que tu nous expliques que des personnes sont assez matures aujourd'hui pour appliquer elles-mêmes ces approches sans avoir à être accompagnées constamment par vous. Donc oui, ces nouvelles pratiques de chef de projet fonctionnent, mais est-ce qu'elles ont un impact général sur la culture de l'organisation ? Est-ce que tu remarques une évolution dans les modes de travail ou dans les mentalités, par exemple ?
Alors, C'est difficile à mesurer. D'ailleurs, c'est un de nos enjeux aussi de savoir mieux mesurer l'impact qu'on peut avoir et l'impact sur l'évolution de la culture du travail. Sur notre organisation, c'est compliqué aujourd'hui de faire cette mesure-là parce que c'est une organisation de 70 000 personnes quand même, donc ça prend du temps à évoluer. Donc moi, j'ai pas le recul aujourd'hui pour dire en 5 ans, voilà ce qui a changé en termes de culture de travail. Par contre, quand on voit qu'il y a des structures d'innovation, d'intelligence collective qui naissent dans d'autres services que le nôtre, c'est un signal très positif hein, sur l'évolution pour nous. Donc ça, c'est déjà un premier signal. L'autre signal, que je vais me redire un petit peu, hein, mais les demandes croissantes d'accompagnement qu'on a, les demandes croissantes qu'on a autour de nos outils ou nos formats de montée en compétences de la part des agents montrent qu'il y a un réel intérêt qui est pris très au sérieux pour mettre en œuvre et pour utiliser de façon opérationnelle des approches, des méthodes, des outils de conception centrée utilisateur ou des modes de travail plus transversales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, si ce n'est qu'on mesure, en tout cas qu'on sent de façon assez forte, on sent que ça tape à la porte en fait, et donc du coup c'est un signal très positif pour nous.
Et du coup, tu parlais juste avant de la fabrique à projets qui doit adapter ses objectifs et développer de nouvelles ambitions pour toujours répandre ses approches. Aujourd'hui, vous êtes 7 personnes à temps plein au sein de la fabrique à projets. D'une part, quels sont les profils que vous avez? Et puis, si vous devez grossir, quel profil tu vas rechercher? Est-ce que ça sera des designers purs, des experts scientifiques? Ou est-ce qu'il y a un besoin quand même d'une expérience dans le service public?
Alors, aujourd'hui, si je puis dire, on a 4 types de profils qui composent l'équipe. On a d'abord 2 types de profils qui incarnent un peu les 2 grandes familles de métiers du ministère, à savoir d'un côté l'aménagement du territoire, l'urbanisme, et de l'autre côté tout ce qui va être environnement, sciences de l'eau, nature, etc. Donc ça, c'est deux profils métiers. C'est important qu'on les ait au sein de l'équipe parce qu'ils nous aident à mieux comprendre les politiques publiques qui sont dans le champ de notre pôle ministériel. Ensuite, on a une troisième expertise qui est plus du champ des sciences politiques, hein, typiquement des gens qui ont fait Sciences Po, qui viennent de ces milieux-là et qui comprennent un petit peu comment fonctionne un service public, qui comprennent ce que sont que des politiques publiques et des enjeux de la façon dont on conduit et qu'on met en œuvre les politiques publiques. Donc ça, c'est un peu les 3 compétences historiques qu'on va retrouver à la FAP, avec une compétence que moi j'apporte fortement et qu'on développe, qui est la culture du design et de l'accompagnement de projet, et qu'on renforce particulièrement en ce moment aussi avec des nouvelles personnes qui nous rejoignent dans l'équipe et qui viennent typiquement d'écoles de design, sachant qu'avant on n'avait pas de designer de métier dans l'équipe et que là on a des personnes qui ont fait une école de design qui nous rejoignent. Donc ça, c'est un équilibre qui est important à garder. Après, pour répondre à ta question sur le futur et vers quoi on va évoluer, je pense que plus ça va aller, plus on va devoir muscler la dimension sens social, psychologie, puisqu'on va continuer à s'intéresser au mode de travail, aux évolutions sociétales, et que du coup, ça, c'est une compétence qui pourrait être intéressante d'internaliser et d'avoir. Dans la mesure aussi où on est sur des sujets, en tout cas nos politiques publiques traitent de sujets qui sont en forte évolution avec un gros champ scientifique, le fait d'avoir un profil qui soit en capacité de faire de la recherche scientifique un peu fondamentale, ça pourrait être intéressant d'intégrer cette compétence-là. C'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui, mais dans le futur c'est possible qu'on intègre ces compétences-là.
Super. Et au-delà du passage à l'échelle, est-ce que vous travaillez sur d'autres approches? Aujourd'hui, le design thinking, l'intelligence collective, ça a fait ses preuves. Est-ce que vous sentez qu'il faut développer de nouvelles approches?
Alors complètement, en fait, nous on s'appelle Fabrique à Projet et on se présente comme étant un laboratoire d'innovation publique. Donc on doit équilibrer notre activité autour de 2 jambes de force qu'on a, hein, qui sont la jambe laboratoire et la jambe fabrique. Quand je parlais tout à l'heure dans nos objectifs stratégiques d'industrialiser de mieux diffuser l'outillage, etc. Tout ça, on est sur des sujets qui répondent plus à ce qu'est une fabrique. C'est-à-dire que fabrique, on doit aider les gens à faire, on doit donner des méthodes, donner des outils pour permettre à tous de faire. Mais pour autant, il ne faut pas qu'on délaisse notre activité laboratoire, qui est une activité exploratrice, finalement. Et ça, effectivement, l'idée, c'est d'aller chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles approches qu'on pourrait détecter par des signaux faibles, soit au sein de notre ministère, soit en dehors, en s'inspirant. Et pour donner quelques exemples là-dessus, typiquement, on s'intéresse de plus en plus en ce moment au design fiction. On n'est pas les seuls, d'ailleurs, ni au ministère, ni dans la fonction publique au sens large, mais ça, c'est un exemple de, si ce n'est méthodologie, en tout cas d'approche, de discipline qu'on est en train de développer chez nous et d'internaliser. Le design systémique aussi est un sujet qu'on va sûrement développer dans les prochains mois. Le design soutenable aussi, ça, on sent que c'est des sujets qui vont rentrer bientôt, qui sont en train de maturer dans le monde du design, dans le monde de l'innovation publique, donc on s'y intéresse. De façon un peu plus opérationnelle et pragmatique, on sait aussi qu'on doit beaucoup développer et pousser la culture du prototypage et du test and learn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le design thinking, on a beaucoup développé l'écoute usagée, l'intelligence collective, l'idéation, la créativité, et on sait qu'il nous reste un peu de chemin à faire autour du prototypage, du test and learn. C'est particulièrement compliqué de faire du prototypage sur les sujets de politique publique, et du coup, ça, c'est aussi un axe de développement important pour nous.
Oui. Très bien. En effet, comme tu le dis, design fiction, design soutenable, design systémique, c'est un peu des mots qu'on entend de plus en plus dans les nouvelles tendances d'innovation par le design. Est-ce que c'est un buzzword ? Est-ce que c'est une tendance ? On en entend parler partout, donc on se dit il faut développer nous aussi ces nouvelles approches. Ou est-ce que c'est un besoin qui naît en vue de demandes qui sont venues vers vous et vous vous rendez compte que les outils que vous utilisez aujourd'hui ne suffisent plus ? À cela. Voilà. Pourquoi développer ces approches-là ?
Alors, pour répondre à la première question, est-ce que c'est un buzzword ou pas ? Non, je ne pense pas. Ce sont des sujets qui sont pris complètement et très au sérieux par les agents qui nous en parlent ou qui nous sollicitent. Par contre, les applications et la façon de les mettre en œuvre sont encore à démontrer. Les besoins, ils sont évidents, et pour nous et pour nos collègues du pôle ministériel. Hein, les enjeux et les sujets de nos politiques publiques sont d'une part complexes, d'autre part de plus en plus intégrés dans les priorités de l'ensemble des services publics. Hein. On est un ministère à réseau, on est un ministère transversal, on a des sujets qui sont dans toutes les administrations. Donc du coup, on n'a pas de doute, il n'y a pas de question de légitimité sur ces nouvelles approches. Par contre, notre travail, c'est de trouver des champs d'application concrets pour favoriser, pour permettre l'utilisation et l'utilité de ces nouvelles méthodes.
Très bien. Très intéressant, comme peut-être que ces approches orientées toujours design, sensibilité, ont plus de facilité à être acceptées aujourd'hui qu'il y a 10 ans où on parlait de design thinking ou de créativité dans le monde de l'entreprise. Et il y a eu un peu de mal à asseoir une légitimité là-dessus. Donc oui, les pratiques autour du design sont légitimes au sein des structures publiques, mais aussi privées, au point qu'aujourd'hui, ces structures s'ouvrent plus facilement à d'autres approches et pratiques. Et c'est là que j'aimerais bien parler un peu de l'évolution de l'accompagnement de projets. Toi, tout le long de ta carrière, tu as accompagné des projets de transformation. Avant de rejoindre la FAP, tu as vécu le conseil créatif, agence de design privée, publique. Peux-tu nous parler un peu de ta carrière et qu'est-ce que tu as observé en termes d'évolution, que ce soit lors de la posture de celui qui accompagne les transformations, que des outils ?
Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière comme jeune consultant et le premier projet que j'ai eu à faire, c'était pour une grande administration française. Et j'ai passé à peu près un an et demi à réaliser et à faire valider un cahier des charges technique pour une solution de sécurité qui impliquait un ensemble de services publics européens, en tout cas un ensemble d'administrations européennes. C'est étonnant parce que quand je regarde ce projet avec 15 ans de recul maintenant, finalement les méthodes qu'on a utilisées à l'époque, qui étaient très peu collaboratives, et les outils aussi, n'auraient plus aucune chance d'aboutir et de fonctionner comme ça aujourd'hui. En tout cas, ça n'aurait pas été satisfaisant comme type de projet, et pas pour moi, hein, pour le service et l'écosystème dans lequel je travaille. Ça me fait dire qu'effectivement, enfin, ça me fait répondre positivement à ta question. Oui, il y a eu une évolution notable. Enfin, je peux constater aujourd'hui une évolution notable dans les pratiques de travail que je pouvais mettre en œuvre dans un cabinet de conseil il y a 15 ans et les pratiques que je mets en œuvre aujourd'hui dans mon métier et que probablement les cabinets de conseil mettent en œuvre aussi aujourd'hui. Alors, pour répondre à ta question et raconter un petit peu mon parcours, donc moi, je suis ingénieur de formation, comme je l'ai dit. J'ai commencé ma carrière dans un cabinet de conseil en transformation et management. J'ai fait d'abord de la sécurité des systèmes d'information, où là j'ai travaillé sur des aspects assez techniques, une transformation numérique, mais sur des sujets assez techniques. Ensuite, j'ai changé de practice au sein de ce cabinet de conseil pour mettre une dimension un peu plus métier dans mon quotidien et dans mes projets. Et là, je suis allé sur des postes plus d'assistance à maîtrise d'ouvrage SI, où j'ai fait des projets de transformation numérique en agile pour, pareil, des administrations ou des entreprises du privé. Et à ce moment-là, après quelques années de conseil, en fait, j'ai commencé à découvrir le design thinking. J'ai touché du doigt un peu la conception centrée utilisateur et j'ai eu envie de me former à ça. D'en apprendre plus et je me suis dit à l'époque que c'était pas dans un cabinet de conseil que j'arriverais à développer ça, donc j'ai fait le choix de quitter ce monde du conseil pour aller rejoindre plutôt le monde du design, donc d'abord dans une première start-up où je me suis un peu formé sur le tas, sur le design thinking, sur la conception centrée utilisateur, sur l'expérience client, puis après j'ai rejoint une autre start-up qui était plus sur du design de temps de travail collaboratif, donc qui était moins là pour mettre en œuvre des approches de design que pour transformer les modes de travail des organisations. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et j'ai fait ça encore pendant plusieurs années avant de rejoindre le ministère et de faire toujours la même chose finalement, à la fois de conduire des projets en mode design, mais avec une vocation derrière qui est de transformer les modes de travail ou les organisations vers plus de transversalité, plus d'intégration des différentes parties prenantes. Donc, en fait, ce que j'ai fait dans mon parcours, c'est que j'ai remonté la chaîne de valeur d'un projet de transformation en partant de sujets très techniques et en allant vers des sujets qui touchaient de plus en plus au culturel, à la dimension métier, aux facteurs humains dans les projets. Pour détailler un petit peu ce que j'ai observé comme évolution, bon, c'est très compliqué de faire une liste, mais peut-être d'abord en premier point souligner que l'intégration de l'ensemble des parties prenantes et la dimension transversale d'un projet était de plus en plus un paramètre fort des modes projets sur lesquels j'ai pu travailler et des projets que j'ai pu accompagner. Pourquoi ? Parce que ça les rendait beaucoup plus efficaces, beaucoup plus impactants. En fait, les projets, la conduite des projets s'est transformée vers des choses très verticales sur des organisations, des modes de faire beaucoup plus horizontales, hein, un peu dans la lignée de l'agilité à l'échelle, par exemple. Ça, c'est un premier point important à constater. En termes d'outils, également, les outils de gestion de projet collaboratifs se sont fortement développés, moi, au cours de ma carrière. C'est-à-dire que j'utilise aujourd'hui des outils de communication, des outils dans le cloud, des outils de management visuel, des outils et des techniques d'intelligence collective qui n'avaient pas du tout cours quand j'ai commencé à travailler. C'est effectivement quelque chose de fort que j'ai vu évoluer aussi. Peut-être parler non pas des outils, mais des réunions, des façons de travailler, d'organiser le travail au quotidien aussi, ça a beaucoup évolué également. C'est-à-dire que les réunions que je faisais il y a 15 ans étaient très codifiées, très peu collaboratives, et l'ont été de plus en plus au fur et à mesure de ma carrière. Alors probablement parce que j'ai changé aussi d'organisation, et que j'ai été vers des sujets qui s'y prêtaient plus, mais probablement aussi parce que les organisations ont elles-mêmes compris l'intérêt d'avoir des modes de travail, des temps de travail qui soient différents. Et à souligner aussi que bon, cette évolution-là, elle a été fortement aidée il y a quelques années par une pandémie de Covid qui a chamboulé fortement et qui nous a fortement fait repenser la façon dont travaillaient les organisations.
Donc, en effet, une évolution des projets de transformation du technique au culturel. Et je suis d'accord avec toi, la crise sanitaire a été un accélérateur de tendances majeures dans plein de domaines, et notamment celui des modes de travail. Et d'où vient ma dernière question? À ton avis, on va évoluer vers quoi? Alors, quelles seront les pratiques en termes de gestion de projet, management, transformation, en vue des tendances actuelles?
Alors... Moi, c'est compliqué de répondre à cette question parce que je ne suis pas un visionnaire ni un psychologue ou un sociologue des modes de travail. Mais en fait, je vois une montée en puissance du facteur humain par rapport au facteur organisationnel depuis 15 ans. Et si ça continue sur cette tendance-là, en fait, si on continue d'intégrer plus fortement le facteur humain, nos organisations vont évoluer en même temps que le facteur humain va évoluer. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que ce qui va faire évoluer les organisations, c'est les évolutions sociétales. Demain, les collaborateurs d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée, vont avoir des aspirations personnelles qui vont prendre le pas sur l'organisation. Donc moi, je pense que les organisations vont évoluer pour être beaucoup plus humaines au sens, à l'image des collaborateurs qui la composent. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Ça peut vouloir dire que il y aura peut-être moins de codification sur la façon dont sont organisées les entreprises ou les services publics. Il y aura peut-être moins de structures qui seront portées par des grands services, etc. Les fonctions seront peut-être beaucoup plus éclatées, beaucoup plus transversales dans l'entreprise. La façon dont les collaborateurs vont travailler aura peut-être beaucoup évolué aussi, c'est-à-dire que bon, forcément on parle beaucoup de télétravail, de slashing aussi, d'avoir plusieurs métiers, de ne pas être à temps plein sur un poste, d'avoir des pratiques personnelles qui nourrissent beaucoup plus la pratique professionnelle. Donc voilà, moi je vois quelque chose qui fasse un peu éclater l'entreprise, en fait, au sens où elle se fera pénétrer encore plus par l'entreprise ou le service public, hein, elle se fera pénétrer encore plus par les aspirations individuelles des collaborateurs, par leur mode de pensée, par leur mode de faire, par leur vision, par leur conviction. Et ça, pour moi, ça va être un facteur important de transformation des organisations.
Merci pour ta réponse. En effet, c'est très intéressant. Et les tendances actuelles laissent entendre qu'on pourrait aller vers ces futurs-là, en effet. On termine toujours nos podcasts avec un mot à l'audience. Si tu as quelque chose à partager, un conseil, une recommandation, questionnement, mais aussi une recommandation, livre, podcast, documentaire, article. Voilà, on te laisse dire un dernier mot à notre audience.
Alors, recommandation, non. Partage d'inspiration, peut-être. Je recommande fortement la lecture du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui est très, très éclairant sur la façon dont nos organisations sont construites aujourd'hui, la façon dont nos organisations sont le reflet de nos sociétés actuellement aussi. Donc, je pense que ça, pour qui s'intéresse à ce sujet des transformations, c'est... C'est un livre à lire absolument.
Oui, j'adore, c'est le bouquin. Et il parle en effet que la dernière évolution du monde du travail, de la couleur opale, est quelque chose de plus organique.
Exactement, organique, c'est un bon terme. Ouais, une phrase qui m'inspire aussi, moi, dans mon métier aujourd'hui... Et je trouve qu'elle est assez illustrante de ce que mon métier d'accompagnement des transformations doit être. C'est une citation de Charles Darwin qui a dit « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. » Et du coup, bah, ça conclut un petit peu, enfin ça rejoint ce que je disais à la question précédente, qui est que quand on me demande vers quoi les organisations vont tendre et s'adapter, bah, finalement les organisations, elles vont... s'adapter aussi, enfin, vont s'adapter aux changements culturels qu'on va vivre. Et là, les changements culturels, bah, il suffit de regarder un petit peu les infos pour savoir de quoi on parle. Mais bon, il y a pas mal de sujets sociétaux qui sont, à mon avis, plus des signaux faibles maintenant, mais des signaux forts sur des changements sociétaux qui sont à l'œuvre, en bien ou en mal.
Oui, super. Eh bien, merci beaucoup pour ces inspirations et ces échanges. Et à la prochaine.
Au revoir, Colline. Merci.
Au revoir, Quentin.